Dans ta petite allocution, tu as parlé du problème de l'ambiguïté de certaines revendications. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette question ?
C'était tout le débat qui a été posé sur les questions des souverainistes. Il y aurait des souverainistes contre les mondialistes. Alors si on prend ce qu'a dit le collègue, parmi les souverainistes, il y aurait des gens de la France insoumise, peut-être du Parti communiste, et de l'autre côté de l'échiquier politique, on est sur Dupont-Aignan, Marine Le Pen et peut-être encore d'autres asinots. Une même revendication, on va prendre une très simple à mener, c'est le salaire. On veut une augmentation de salaire. Et ce débat-là, je l'ai eu avec des gilets jaunes qui disaient on propose au SMIC à 1500 euros. On a deux façons d'y arriver au SMIC à 1500 euros. On a une diminution complète des charges et on enlève les cotisations sociales. Et à un moment donné, tout ce qui est retiré, mais qui est notre assurance sous forme de mutuelle, elle est retirée. Donc on arrive à un salaire net, on va dire, de 1400, 1500 euros. Oui, mais sauf que, après, comment tu fais pour t'assurer pour ta santé, pour le chômage, etc. Tu vas retomber dans le circuit du privé, c'est-à-dire tu vas aller rechercher une assurance chez AXA pour te couvrir les médicaments, l'hôpital, etc., etc. De l'autre côté, on a une autre logique. On a 1500 euros, on n'enlève pas les cotisations salariales. Tu vas me dire, les TPE, PME vont crever. Alors, l'histoire, 68, 35% des hausses du SMIC, les patrons ont sorti le chéquier. Mais quand on voit ce que sont capables de sortir Arnaud, Pinault, Mullier et compagnie pour Notre-Dame, où ils ont sorti les chèques 200 millions, 300 millions, vas-y que je t'envoie l'argent là pour se montrer, se refaire une virginité, tu sais que l'argent existe. La fraude fiscale, c'est 100 milliards par an. Les cadeaux faits au patronat, combien de millions sont donnés à Carrefour pour licencier? Donc j'ai qu'à un moment donné, pour les petits patrons et TPE, PME, le CICE, au lieu de le mettre sur le CAC 40, on les met sur ces entreprises-là. Et là, l'État prend en charge un certain nombre de financement qui fait que notre salarié aura son SMIG à 1400, 1500 euros au moment de fixer le chiffre. Mais il conservera ses garanties, ce qu'on a su créer depuis 36, 45 à la sortie de la guerre avec le Conseil national de la résistance. Donc l'argent, il existe. Donc on a deux modèles. On a le modèle partage des richesses ou on a le modèle inverse. Et on peut faire la même démonstration sur la fin du monde, fin du mois. Alors synthétiquement, l'un des plus gros pollueurs, c'est le porte-container. C'est ce que m'a dit mon gamin qui fait une école d'ingé. 20% de la pollution mondiale, c'est le porte-container. Donc on a deux solutions. La première, on n'importe plus et on relocalise. On crée de l'emploi en France. On va faire ton blouson, toutes ces choses qui sont faites en Chine ou ailleurs, on va les refaire en France. Donc on va créer de l'emploi. En créant de l'emploi, on va relancer une machine économique. Les gens vont continuer à cotiser, vont renflouer les caisses de la Sécu, les caisses chômage, etc. Comme il y aura moins de chômeurs, il y aura moins de dépenses au niveau du chômage. Donc, toi, on est sur une relance. Voilà. De l'autre côté, on entend des Dupont-Aignan, on entend des Marine Le Pen, qu'on va taxer à la frontière. On va taxer fortement le t-shirt qui était à 10 euros, il va sortir à 20. Ouais, mais le porte-container, il continue à circuler pendant ce temps-là. Et on n'a pas réglé le problème du chômage en France. Donc, à un moment donné, sur cette même logique, fin du monde, fin du mois, même combat, le porte-container, d'un côté avec Marine Le Pen, la droite française et d'autres, il va continuer à circuler, mais on va taxer fortement et c'est encore l'ouvrier qui va payer. De l'autre côté, on va recréer de l'emploi. Et on va me dire, oui, mais on ne pourra pas se payer le t-shirt en France, etc. On se posera peut-être la question de savoir si on a une garde-robe ou un machin avec 7-8 t-shirts au lieu d'avoir 6. Et puis après ça, une nouvelle fois, on se repose la question du salaire. Et le salaire, c'est le partage des richesses. Voilà, tu as deux logiques qui s'affrontent. Et là, le débat, pour le moment, j'ai envie de te dire, il va falloir qu'il ait lieu dans les gilets jaunes.
Une petite contradiction à soulever, c'est qu'effectivement, ça appelle à formuler beaucoup plus clairement un projet qui est unitaire chez les gilets jaunes. D'un autre côté, ce projet qui est unitaire, il crée une division entre des gilets jaunes qui ne seraient peut-être pas clairement anticapitalistes et ceux qui le seraient.
C'est toute la question, mais après c'est le débat, c'est la discussion de militants sur le terrain. Moi je sais que je discute avec pas mal de gens qu'on appelle fâchés et qui votent Front National. Alors je me fais un plaisir de discuter avec eux parce que j'essaye, et là je joue mon rôle de militant, de démonter tous les arguments qu'on leur a inculqués pendant des années pour exprimer leur colère. Et à un moment donné, quand tu vas toucher, quand tu leur dis, Marine Le Pen par exemple hier soir, elle a commencé à annoncer qu'un salaire de 22 millions pour un patron, c'était normal. Le gilet jaune dans la rue, il ne peut pas l'entendre. Alors tous ces messages-là, à un moment donné, ils sont en contradiction. Mais ce qui fait la force du mouvement gilet jaune, c'est quand même la solidarité, c'est l'humain d'abord. Moi, j'entends beaucoup, je ne sais pas si tu as vu tout ce qui se passait avec les maraudes, aider les SDF et compagnie, toute cette notion de solidarité, de fraternité qui s'est retrouvée, elle est là. C'est-à-dire que le fond des Gilets jaunes, il est sur l'humain. Il est sur l'humain, c'est-à-dire que l'argent roi, qui ça pète de partout, ça n'en veut pas. Donc, à un moment donné, tout ce qu'on leur a appris, c'est à des militants, à des, je sais pas, des courants politiques, des débats qui peuvent avoir lieu, qui leur feront dire à un moment donné, on va continuer avec l'argent roi, puis on va être dans le mur au niveau de l'écologie, au niveau de la transition écologique. Ou alors, ça sera autre chose. Donc, à un moment donné, une contradiction, ça se dépasse. Ça se dépasse, mais il faut le débat. Et là, le débat, pour le moment, il n'a pas lieu encore. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le plus dur a été fait. On s'est mis d'accord sur un cahier de revendications. On a 40, 50, 60 revendications qui, si on est capable de les coordonner, vont faire un programme politique. Mais après, c'est comment tu le déclines ? Comment tu le déclines ? Toi, ce soir, par exemple, Macron, il te dit « je ferme pas d'école, je ferme pas d'hôpitaux ». Ah oui ? Alors là, tout le monde va être content. Mais je lui dis alors, mais une école, c'est pas une classe. Il peut très bien ne pas fermer une école et fermer des classes. Il peut très bien ne pas fermer un hôpital, mais fermer des lits. Donc, là, c'est toujours pareil. C'est comment tu déclines après un objectif qui, d'apparence, peut aller dans une bonne direction pour l'individu ou va aller dans la direction du capital et de l'argent roi. Voilà.
Dans ton intervention, tu as parlé de la nécessité de réussir à regrouper des personnes ou des formes de manifestations, de mécontentement qui sont différents mais compatibles et voire nécessaires. Est-ce que tu pourrais essayer de redévelopper cette idée ?
Je pense que dans le mouvement des Gilets jaunes, il faut essayer de diversifier les formes d'action. Parce qu'il y a différents publics, différentes personnes qui sont dans le mouvement ou qui peuvent venir dans le mouvement. Parce que moi, je pars du principe qu'il y a des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas encore participé ou peu, qui peuvent participer parce que c'est un mouvement ouvert et les revendications sont toujours là. Donc, quand on fait une marche entre deux lieux inhabituels, telle ville à telle ville, par exemple, nous, on a fait Tourcoing jusqu'à Lille, par exemple. C'est un moyen d'attirer de nouvelles personnes, quoi. Voilà, c'est une marche-manifestation. C'est pacifique, c'est tranquille, dans la bonne humeur, et on fait parler de nous, les médias relais, voilà. Faire un barbecue sur un rond-point, à un moment donné, s'arrêter, distribuer des tracts, une autre forme d'action comme une autre. Il peut y avoir d'autres, on parle des manifestations lilloises, y compris qui ne sont pas toujours très tranquilles. Ça, c'est une autre forme de manifestation. Il y a des gens qui ne veulent pas y aller, il y a d'autres... Ok, très bien, mais il y a d'autres moyens d'attirer du monde, d'avoir du monde avec nous. Nous, par exemple, Tourcoing, on est présent sur le marché aussi. Tous les samedis matins, on se donne rendez-vous devant la mairie à 8h30. Hein, on fait un petit rassemblement devant la mairie, qu'on se regroupe là, et puis après, on va. Le marché du samedi matin est à 100 mètres. Et donc, on participe, on discute avec les gens, la sortie du métro, là, qui viennent dans le marché. C'est une habitude qu'on a pris. Là, sur le marché, on peut discuter. On rencontre, les gens voient qui sont les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est monsieur tout le monde. Hein. On a les mêmes revendications que ceux... Parce que c'est le problème d'un mouvement qui dure au bout d'un certain temps. Ça fait 5 mois. Comme le mouvement dure, il peut y avoir l'impression qu'il y a une barrière qui s'installe. Il y a les Gilets jaunes et les non-Gilets jaunes. À la limite, non, c'est pas ça. Gilets jaunes, c'est juste un... Bon, c'est juste un symbole, à un moment donné, qui a été mis à partir du 17 novembre. Mais d'abord, c'est des revendications. Les Gilets jaunes, ils portent des idées, ils portent des revendications. Mais c'est les revendications qui nous intéressent. Sur la hausse des minima sociaux, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, il y a des revendications sociales fortes qui sont là. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant.
Autre point, tu as insisté sur le fait que dans votre collectif tourquennois, la vie démocratique était importante. Vous vous réunissez chaque semaine. C'est une spécificité de votre groupe ?
Ah, je ne sais pas. Je ne crois pas. J'ose espérer que non. J'avoue, je ne sais pas du tout. Chacun s'organise comme il peut. Alors, c'est pas toujours. Il faut pouvoir disposer d'une salle. C'est pas toujours simple. Hein. On sait qu'il y en a qui se regroupent comme pas très loin de chez nous. Il y a ce qu'on appelle le rond-point de l'ERS. Sur un rond-point, les gens se réunissent là. Sur le rond-point. C'est toujours sur le rond-point qu'ils font la réunion. Nous, non, on est dans une salle. Voilà, c'est la particularité. Nous, on n'a jamais tenu en permanence de rond-point, par exemple. On a été présents sur des ronds-points, mais il n'y a jamais eu un rond-point présent jour et nuit. Parce que ça ne se prêtait pas dans notre environnement très urbain. Ça ne se prêtait pas. Mais par contre, on a très rapidement, peut-être pas dès le 17 novembre, non, mais peut-être 15 jours ou 20 jours après, commencer à faire les premières réunions nécessitées. C'était important de se réunir, se parler, se connaître. Je me souviens, la première réunion, il y avait une foule. Chacun a fait le tour de la salle. Qui je suis ? On n'a pas sorti la fiche de paix quand même, mais c'est quoi mes difficultés ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis intéressé par le mouvement ? Pourquoi ? Parce que, voilà, petit boulot précaire, l'autre difficulté... finir les fins de mois, d'autres qui peut-être s'en sortent un peu mieux, mais simplement une conviction personnelle de la nécessité de se bouger contre les injustices du gouvernement. On a fait connaissance au fur et à mesure, alors il y en a qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, mais oui, maintenant c'est une habitude ancrée. Tout le monde sait que tous les mardis soirs à 18h30, on est en réunion, on discute, on fait le bilan de la semaine, l'analyse de la situation, et on essaie de réfléchir à des actions. Alors c'est des réunions qui peuvent parfois être un petit peu longues, mais le plus souvent elles sont d'ailleurs très courtes. Une heure et demie, on essaie de finir pour 20 heures. Parfois, bon, après quelques-uns entre eux restent, boire un petit apéro, discuter s'ils le souhaitent, mais il y a un cadre qui est posé, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter des idées entre nous entre chaque semaine, hein, parce que la vie d'un mouvement... Il y a des nouvelles idées, des propositions sur Facebook, autres qui émergent. Est-ce qu'on va aller là ? Est-ce que voilà ? Il peut y avoir des décisions d'urgence qui sont prises. Mais globalement, voilà, on essaie pour essayer que tout le monde participe. Pour essayer que tout le monde participe, c'est le lieu d'échange. C'est le lieu où on peut remotiver aussi quelqu'un.
Vous avez soulevé tout à l'heure le problème des élections, le problème du vote en général. Effectivement, les élections européennes apparaissent comme une échéance aussi pour le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez m'exprimer votre point de vue là-dessus ?
En préambule, il n'y a pas plus respectueuse que moi du droit de vote. Je n'oublie pas que c'est seulement, moi je suis née en 46 et que c'est seulement en 44 que les femmes ont eu le droit de vote. Hein. Donc vous imaginez à quel point j'y tiens. Seulement, il ne faut jamais oublier que par exemple, en Égypte, il y a le droit de vote. Dans plein de pays dictatoriaux, il y a le droit de vote. Donc, le droit de vote est parfois illégitime. On ne peut pas voter pour un dictateur, par exemple. J'ai travaillé un peu sur la question européenne et sur le pouvoir du Parlement européen. Et je me suis rendu compte que le Parlement européen n'avait aucun pouvoir. C'est le Conseil européen qui a le pouvoir, hein, qui fonctionne d'une manière invraisemblable. Les 27 ou 28 chefs d'État, selon l'Angleterre, ils fonctionnent quand ils prennent une décision à l'unanimité. Vous trouvez que c'est de la démocratie, ça ? Et c'est eux qui détiennent le pouvoir sur les traités européens. Mon premier choc, qui m'a fait m'engager quand même en politique, hein, à propos de la démocratie en France, c'est quand en 2015, j'ai personnellement, et comme la majorité des Français, voté non au traité constitutionnel européen, et qu'en 2008, le Parlement français a voté le traité de Lisbonne. Et c'est donc assis sur un référendum où le peuple français avait voté non. Et là, j'ai eu un choc et je me suis dit, on n'est plus en démocratie. Et j'ai regardé autour de moi et j'ai cherché à m'engager. Bon, j'ai appris plein de choses du coup. Du coup, l'engagement militant quand même, parce que moi je ne suis pas historienne, je ne suis pas économiste, donc il a fallu que je lise beaucoup et puis que j'écoute toutes les opinions. Et c'est vrai que j'aimerais bien animer, alors ce n'est pas méprisant l'expression éducation populaire, j'aimerais bien faire ça au sein des Gilets jaunes, et j'aimerais bien animer des débats par exemple sur les prochaines élections européennes. Parce que personnellement, évidemment, à titre personnel, je milite pour le boycott, mais au sein d'un débat Gilets jaunes, c'est un atelier débat, et ceux qui auront des arguments pour me prouver que c'est intéressant de voter pour contrer Macron, je les écouterai. Je ne serai peut-être pas d'accord, mais je les écouterai. Voilà ce que j'ai proposé ce soir.
Donc votre stratégie, ou du moins cet appel au boycott, il concerne les élections européennes, mais pas forcément toutes les élections ?
Pas du tout. Pas du tout, non. Les élections municipales, enfin les Français, vous savez, ils sont pas fous, hein. Même pour les élections européennes, justement, ils s'abstiennent tout le temps, sauf quand ils sentent plus ou moins confusément qu'il y a un enjeu où ils ont du pouvoir, comme pour au moment du TCE, par exemple. Non, pas les élections présidentielles, moi je suis pas trop pour un régime présidentiel, mais bon, oui, là, aux dernières, j'ai voté blanc au premier tour et je me suis abstenue au deuxième. Hein, voyez ? Parce que, bon, j'ai eu du mal à convaincre mes propres filles de ne pas avoir peur de Marine Le Pen. Bien que je ne sois pas pour Marine Le Pen, mais de ne pas avoir peur, voilà. Hein, c'est ça. Imaginons qu'on refasse un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Bon, je pense qu'a priori en France, pour l'instant, c'est pas mûr, mais pourquoi pas, on pourrait le proposer, ça, de refaire si on arrivait à faire comprendre aux gens que l'Union européenne. Parce que la plupart des gens que j'ai interrogés là, en particulier, enfin interrogés, avec qui j'ai discuté en particulier, m'ont dit, mais t'as oublié de dire que d'abord tu étais anticapitaliste. Bah oui, bien sûr, oui. Ça, mais pour moi, c'est tellement évident que j'oublie de le dire, quoi. Mais donc, je trouve que le premier pas pour mettre un coin dans la porte du capitalisme, c'est de commencer par le plus proche qu'on a de nous, c'est-à-dire l'appartenance à une autorité supérieure qui est l'Union européenne, qui n'est pas démocratique. Voilà, on perd notre démocratie et notre souveraineté populaire, elle recommencerait par là. Ça ne veut pas dire qu'après, on n'aurait pas envie de faire des propositions d'alliance et de partenariats économiques, commerciaux, etc. Est-ce que tu te souviens qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la proposition de la charte de la Havane? Alors la charte de La Havane, c'était acceptée par 26 pays, ça a été signé à La Havane, comme son nom l'indique, et ça organisait le commerce international. Mais ça l'organisait d'une manière, comment dire, avec des échanges, avec des balances commerciales équilibrées, et pas sur la base de la concurrence, mais sur la base de la coopération entre deux pays ou entre trois pays, etc. Alors que là, nous fonctionnons sur le plan mondial et sur le plan Union européenne, bien entendu, sur la base de la concurrence soi-disant libre et soi-disant non faussée, qui n'est ni libre ni non faussée. Et voilà, elle est obligatoire et complètement faussée, cette concurrence, parce qu'il y en a bien qui font quand même du protectionnisme. Une des choses qu'il faut démolir au départ, c'est le principe de la concurrence entre pays sur le plan économique. Ça amène quoi ? Ça amène que ce soit les moins-disants qui gagnent, hein, sur le marché. C'est-à-dire le moins-disant, eh ben, c'est la plus mauvaise marchandise, l'obsolescence programmée, la pression sur les salaires parce que c'est la variable d'ajustement du profit, etc., etc.
Est-ce qu'on peut essayer de faire un bilan de ce qui a été dit ? Ça avait commencé un petit peu sur une note assez pessimiste, c'est-à-dire la stagnation du mouvement, la difficulté de coordination, les dissensions ou les disputes internes. Au final, bon, on a senti une bonne énergie. Donc, est-ce que c'est ça qu'il faut retenir et comment on pourrait essayer de synthétiser tout ça, cette volonté de structurer et de s'entendre de manière unitaire ?
Dans ce qu'on peut avoir entendu ce soir, c'est que les personnes qui sont déplacées déjà ont eu envie déjà de se mobiliser ou de se remobiliser en tout cas et d'être de nouveau solidaires. Je pense qu'ils ont envie d'avancer dans le mouvement et c'était aussi le but de cette réunion, de proposer des choses qui sont différentes et qui sont aussi peut-être nouvelles pour que on sensibilise aussi la population au sens large du terme et pas que au niveau des gilets jaunes.
C'est le début justement de ce mouvement de décentralisation puisque justement là c'est pas à Lille alors que précédemment c'était très centré sur Lille. Donc que cette réunion ce soir ait lieu à Oisier, c'est déjà en soi un symbole fort, quoi.
Moi je pense que ça permet l'ouverture du dialogue justement et ça permet d'éviter que les gens campent sur leur position. on a vu des gens qui ont réfléchi en tout cas à ce qui s'est passé ces dernières semaines, qui ont fait le point et le bilan et qui se sont rendus compte que finalement le seul ennemi commun est le gouvernement et les propositions de loi qui sont faites. Donc justement, solidariser beaucoup plus le mouvement pour le faire grandir et le faire avancer et justement aller atteindre les populations qui... au même titre que nous, ont les mêmes revendications, ou en tout cas ont envie que ça bouge, parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Hein. Moi, je le disais tout à l'heure, j'ai discuté avec la dame de la mairie qui me dit « mais j'espère que vous aurez du monde, j'espère que ça va se remobiliser, parce que bah, quand même, le gasoil, il est monté, il n'y a pas de choses qui avancent, etc. » Donc on sent qu'il y a des gens qui comptent sur les gilets jaunes, mais je pense qu'il est temps aussi de l'étendre. Il est temps d'étendre à la population, notamment avec les européennes aussi qui arrivent. Il faut ouvrir les esprits, je pense, et nourrir les esprits, c'est important. Donc bah, des conférences, des débats, c'est important aussi d'aller jusque-là et de construire aussi le mouvement autrement.
Les gilets jaunes, ça pourrait devenir un mouvement d'éducation populaire ?
Pourquoi pas ? Je pense qu'on peut aller vers des réunions, justement, des ateliers, enfin plutôt participatifs citoyens. Ça peut être intéressant. Alors, citoyens au sens large, hein, j'entends pas que les personnes qui sont de nationalité française. Hein, parce que pour moi, toute personne qui vit sur le territoire français est considérée comme un citoyen. Mais c'est important de travailler tous ensemble pour une vie meilleure. C'est ce qui ressort vraiment du but de chacun, en fait. Améliorer les choses, améliorer aussi les choses au niveau local, au niveau municipal, pour justement faire grandir les choses au niveau national.
Il y a une autre question très largement soulevée, c'est celle du projet politique qui pourrait structurer, qui pourrait être fédérateur et qui pourrait aussi être porteur d'une redynamisation du mouvement. Est-ce que ça paraît... C'est pas envisageable ou sous quelle forme ? Je pense notamment au fait que tu as évoqué l'idée des citoyens. C'est vrai que tout à l'heure, il y en a d'autres qui ont dit tous ensemble, mais quand même pas avec tout le monde. Arnaud et Pinault et compagnie, bon, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être, ce projet politique ?
L'objet de ce travail, c'est de le définir. Ce qui est important pour moi, c'est le mouvement des Gilets jaunes, il s'articule autour de trois trucs. Il y en a un, c'est la manif. Ensuite, il y a faire pression sur l'économie, enfin, avoir tenir un rapport de force, parce que bah, c'est tout, on peut se faire entendre qu'à ce prix-là. Et aussi, se réunir autour d'une table et préparer un projet. Parce que se débarrasser de ce qu'il y a sur la table pour le moment, bon, ça c'est une chose, on est tous d'accord. Mais il va falloir proposer autre chose, il va falloir mettre en place autre chose. Et c'est là qu'effectivement, ça doit être inévitablement, ça va passer par l'éducation populaire.
Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça, la sensibilisation de la population. On entend énormément de gens qui sont pour les gilets jaunes, on voit des gens qui klaxonnent au niveau des ronds-points, toujours parce que voilà, ils sont plus dans le mouvement, ou alors ils ont pas été dans le mouvement parce qu'ils peuvent pas, parce que leur métier leur permet pas, parce qu'ils ont des enfants, ou etc. Mais leur envie, elle est là, leur envie, elle est derrière. Donc je pense que faire évoluer la mentalité et faire participer les gens, à la communauté. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fera que la politique de demain va changer.